jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Silence, tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz sur Onde Femme Radio Zone. Notre téléphone pendant les émissions en direct, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Delémont et Bâle. Et puis Neuchâtel aussi, Lausanne, enfin en tout cas toutes les villes qui, comme Genève, ont rejoint, ont dit non fermement au nucléaire. De plus en plus, on reconnaît nos alliés. Alors en tout cas, le bal, nous apprécions beaucoup. De Bâle Campagne et de Bâle Ville, vous pouvez nous téléphoner en faisant le 033 50 40 51 41. Dans quelques minutes, les nouvelles, suivies du memento et ensuite beaucoup, beaucoup de musique. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. En Amérique, la droite conservatrice part en guerre contre les artistes non conformes. Vient de s'ouvrir à Cincinnati, aux États-Unis, le procès d'un directeur de galerie accusé d'avoir invité une exposition du photographe Mapplethorpe, jugée obscène par une partie de la population. Une affaire qui a donné le signal d'une offensive sans précédent, qui rappelle le macartisme, de la droite conservatrice américaine contre la liberté d'expression et surtout contre toute forme de sexualité non béatifiée par un mariage hétérosexuel. Leur mission, nettoyer la ville, interdit de parler de religion, d'homosexualité, de sexualité interraciale, de sadomasochisme, de faire toute allusion à la sexualité infantile. Le 26 juillet de cette année, le Sénat votait le Helms Amendment, interdisant à la NEA, le seul organisme de soutien de la culture, de subventionner des œuvres dites obscènes. Les bénéficiaires d'un subside doivent s'engager pour recevoir des fonds à signer un formulaire selon lequel ils s'engagent à ne pas produire d'œuvres qui puissent, je cite, être jugées obscènes. Aux États-Unis, l'obscénité est définie par un arrêt de la Cour suprême, mais c'est aux tribunaux locaux qu'il revient de définir l'application de ces critères en se confirmant aux diverses ordonnances des États. Malgré les manifestations de protestation des artistes, des meetings et des actions militantes de groupes, le monde de l'art est loin d'être uni. Le Corcoran Gallery, le plus ancien et prestigieux musée de Washington, s'est couvert de honte quand le 13 juin 1989, en succombant à la pression politique, sa directrice, Christine Orr-Kahal, qui a depuis fait des excuses publiques et a donné sa démission, a annulé la rétrospective du photographe Mapplethorpe. La NEA a d'autre part, le 9 novembre 1989, demandé le remboursement d'une subvention de $10,000 accordée à un espace alternatif new-yorkais de Artist Space pour une exposition sur les ravages du sida dans le monde downtown new-yorkais. La droite est persuadée que la gauche aux États-Unis a volé l'âme et l'esprit de l'Amérique. Ils ont peur du modernisme, de la liberté, de toute liberté dans le domaine des idées et des attitudes sexuelles. Il ne s'agit pas de quelques photos obscènes, dit l'artiste Nancy Sparrow. Il s'agit d'un programme sérieux. Ces gens veulent intimider l'Amérique tout entière. À une époque où le monde de l'art s'ouvre à tout autre mode d'expression, on assiste à un nouveau durcissement des attitudes, dit toujours Nancy Sparrow, à une nouvelle fermeture des horizons. Et c'est la même chose dans le domaine de la libération des femmes, du droit à l'avortement. Le désir de contrôler notre propre corps apparaît de plus en plus utopique dans cette atmosphère de censure. Pour l'artiste David Wojnarowicz, les grands musées de New York contribuent à rendre invisible toute autre imagerie sexuelle que les fantasmes érotiques des mâles hétérosexuels blancs. Pour éviter d'avoir à signer la clause d'obscénité, certains artistes ont refusé la subvention du NEA. C'est le cas par exemple de la cinéaste Yvonne Reiner, qui vient de recevoir une subvention pour les génies de la Fondation MacArthur et dont le dernier film Privilège affiche à New York complet. Elle se trouve en bonne position pour avoir une action efficace et soutient tous les procès intentés contre la NEA, entre autres celui de l'artiste Bella Lubitsky. « Si nécessaire, dit-elle, je renoncerai à ma dernière subvention du NEA. Nous vivons une époque sinistre. La droite a remplacé l'ennemi extérieur, le communisme par l'ennemi intérieur. Il va falloir se battre. » Au Koweït, selon des témoignages de réfugiés indiens, l'armée irakienne fait régner la terreur. Selon une Indienne de 25 ans qui vient de se réfugier, qui vient enfin de pouvoir sortir de l'Irak, l'armée irakienne fait régner un climat de terreur dans toute la capitale. Il y a beaucoup de viols et les femmes ont tellement peur qu'elles n'osent même plus sortir sur leur balcon de peur de se faire repérer par les soldats. Encore une fois, le viol est utilisé et appliqué comme une occupation de territoire. Le trafic d'organes d'enfants en accusation aux Nations Unies. Le trafic d'organes d'enfants se pratique dans 6 pays d'Amérique latine, c'est ce qu'a déclaré à Genève Mme Renée Bridel, déléguée de l'Association internationale des juristes démocrates, lors d'un congrès international sur la prostitution infantine. Ces terribles faits, qui impliquent non seulement des disparitions d'enfants, mais le fait d'en retrouver d'autres encore vivants, les orbites vides ou les reins enlevés, ont lieu dans au moins 6 pays d'Amérique latine. Le Guatemala, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, mais surtout Haïti et la Colombie. Ces faits sont d'autant plus inacceptables puisqu'ils impliquent l'intervention et la complicité des médecins. Ces prélèvements s'effectuent sur des enfants indigents, orphelins ou abandonnés qu'on fait disparaître. Leurs organes sont vendus, bien entendu illégalement, à des personnes fortunées. En 1989, la presse du Guatemala dévoilait déjà ces faits et racontait comment on achetait ou enlevait des enfants à bas âge pour servir à des expériences de laboratoire. En Colombie, des journalistes ont pu découvrir cette triste réalité dans la personne d'une petite fille de Bogota, âgée de 6 ans, retrouvée encore vivante, mais les orbites vides, les yeux arrachés. Les mêmes faits se produisent à Haïti, où les trafiquants ne se contentent pas du marché de l'adoption, mais étendent leur commerce au trafic d'organes d'enfants destinés à des transplantations chirurgicales. Ils ont été dénoncés également au Brésil. L'an passé, l'Organisation mondiale de la santé votait une résolution pour condamner le trafic d'organes. Mais ce trafic enrichit déjà des groupes criminels qui, la plupart du temps, font disparaître les enfants après les transplants. Ce sont d'ailleurs les mêmes criminels qui exploitent la prostitution d'enfants et qui en transfèrent souvent certains d'entre eux d'un continent à un autre, qui pratiquent ce trafic. Cela leur rapporte énormément d'argent, dit René Bridel. We'll be right back. À Bangkok, l'explosion d'un camion de gaz en plein centre-ville fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. Mardi, un camion-citerne transportant du gaz liquide a explosé en pleine ville, soufflant au passage un hôtel dortoir pour femmes. On compte environ 50 mortes et une centaine de femmes blessées. Terrible statistique du sida, 10 millions d'enfants malades en l'an 2000. L'OMS estime que d'ici l'an 2000, au moins 10 millions d'enfants auront été infectés par le virus du sida. Et la grande majorité d'entre eux mourront. L'OMS pense que le sida pédiatrique sera dans les années 90 une cause majeure de mortalité chez les nouveau-nés et les enfants, qui pourrait inverser d'ailleurs la tendance actuelle à la baisse de la mortalité infantile. En incluant les enfants, l'OMS prévoit que 25 à 30 millions de personnes risquent d'être infectées par le sida d'ici l'an 2000. L'OMS signale également l'augmentation rapide des infections du sida chez les femmes en âge de procréer. Cet accroissement découle du fait que la transmission hétérosexuelle du virus responsable du sida devient le principal mode de propagation, surtout dans les pays africains. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 3 millions de femmes en âge de procréer ont déjà été infectées dans le monde. À propos du voyage du pape et de ses commentaires, le pape qui est allé en Afrique et qui a réitéré son opposition à l'utilisation des préservatifs, affirmant qu'il encourage un comportement sexuel susceptible de propager le sida, monsieur Sida de l'OMS n'ose rien dire clairement, mais dans les couloirs, on entend dire que le prêche du pape est un prêche de mort. Les entreprises suisses en Afrique du Sud pratiquent le dumping salarial. Les entreprises suisses en Afrique du Sud répartissent les postes de travail selon des critères raciaux et rémunèrent leurs employés noirs en partie en dessous du niveau minimal recommandé. Telles sont les conclusions tirées du livre « Sous le couvert de l'apartheid » présenté lundi à Zurich par l'organisation syndicale d'entraide Solifond. Ce livre a été entre autres rédigé par la journaliste René Roux et sa collègue Linda Stibler. René Roux a recensé 46 entreprises dont le capital est en majorité en main suisse. 11 d'entre elles possèdent des unités de production en Afrique du Sud et emploient 17 000 employés, soit 4,3% des travailleurs sud-africains employés par des firmes étrangères. Des nombreuses sociétés suisses, parmi lesquelles les filiales et les holdings des groupes importants comme ABB, BBC, Sulzer, Sibagagi, Eternit, Alusus et Orlica Burley notamment, joueraient un rôle leader sur le marché africain, mais ne seraient en aucun cas des employeurs modèles, précise Madame Roux. Sauf des rares exceptions, les postes de cadres supérieurs et des techniciens qualifiés ne sont occupés que par des blancs. Les noirs sont confinés dans des emplois subalternes. Par ailleurs, la plupart des entreprises ne garantiraient même pas les salaires minimaux prescrits par la communauté européenne, bien que ceux-ci soient nettement en dessous des exigences formulées par les syndicats. Les nombreuses entreprises suisses exigeraient au contraire des heures supplémentaires de leurs employés, tout en leur garantissant qu'un tiers du salaire horaire usuel, précise le livre. Le Royaume-Uni est le pays le plus sale, c'est ce que prétend et c'est ce que déclare l'organisation écologiste Greenpeace, qui a accusé lundi la Grande-Bretagne d'être le pays le plus sale d'Europe, en reprochant au gouvernement de ne pas prendre assez de mesures concrètes pour protéger l'environnement. À ce propos, d'après Greenpeace, le Royaume-Uni risque d'être poursuivi par les autorités européennes pour la mauvaise qualité de l'air et de l'eau. Greenpeace reproche notamment aux autorités britanniques d'autoriser les déversements de déchets radioactifs en mer du Nord et de ne pas s'associer suffisamment à la lutte pour la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Le ministre britannique de l'Environnement, lui, a rétorqué que Greenpeace pratiquait la pire des pollutions politiques. « Les écrans d'ordinateur peuvent-ils être dangereux pour les femmes enceintes et leurs bébés? Au début des années 80, on a commencé à se préoccuper du problème. Le débat a été porté sur la place publique lors de l'affaire du Toronto Star. En 1980, dans ce journal de Toronto, quatre femmes qui travaillaient sur des terminaux ont donné naissance à des enfants atteints de malformations congénitales. Une enquête fut ordonnée, mais aucune relation de cause à effet ne put être établie. Les spécialistes parlent alors de clusters, c'est-à-dire en statistique l'apparition d'un nombre apparemment normal de cas d'une pathologie déterminée. Suite à l'affaire du Toronto Star, plusieurs de ces clusters ont été signalés au Canada, aux États-Unis. Le gouvernement et les fabricants d'ordinateurs ont à chaque fois annoncé que l'on ne pouvait en aucun cas en attribuer la cause aux écrans. Néanmoins, malgré ces déclarations rassurantes, certaines compagnies vont négocier en sous-main avec leur personnel. Ce sera par exemple le cas de la société Bell, qui déclarera officiellement qu'il n'y a aucun problème, mais au Canada, quatre employées enceintes vont obtenir le droit de ne plus travailler sur des terminaux à écran, tout en conservant leur salaire. Le débat sera rapidement porté sur le terrain juridique, les syndicats se faisant les relais des inquiétudes des employés et soutenant leurs revendications. Un jugement des prud'hommes de l'Ontario est intéressant à cet égard. En 82, ils ont en effet donné tort au ministère de l'Éducation de cet État. Celui-ci avait diminué le salaire d'une employée enceinte qui avait demandé à être affectée à un poste moins qualifié, sans terminal. Plusieurs conventions collectives vont d'ailleurs expressément faire mention du problème des rayonnements électromagnétiques. En Irlande, le syndicat des postiers obtient en 82 l'interdiction du travail sur écran pour les femmes enceintes. Le même raisonnement prévaut en 83 à Boston et en 84 en Suède pour les employés dans le secteur de l'assurance. Les employeurs, ni les scientifiques, ni l'État ne prouvent que n'apportent de preuves que les terminaux peuvent être dangereux. Au contraire, pour eux, ils sont absolument sans effet, mais on accepte le fait que les femmes puissent demander d'être retirées de ces postes. L'employeur admet donc le principe d'un déplacement vers un poste sans écran en cas de grossesse, tout en, je précise, refusant d'admettre un quelconque danger dans l'utilisation de ces terminaux. Le débat sur le terrain syndical est loin d'être clos. Récemment encore, en 89, les journalistes de la BBC ont menacé de faire grève pour protester contre le risque pour la santé du travail sur écran. Ils veulent que la direction prenne l'engagement de ne pas demander aux femmes enceintes de travailler sur écran. Ce débat ne fait que commencer, l'enjeu est de taille. Plus de 15 millions de terminaux sont en service aux États-Unis. Si un danger venait à être prouvé, des tribunaux risqueraient de se voir assaillis de demandes de dédommagement. D'ici l'an 2000, 3 emplois sur 4 impliqueront l'utilisation d'écrans. Nouvelle Suisse, à Genève, peut-on violer impunément une femme souffrant de troubles psychiatriques? À Genève, on doute que ce soit vrai. Joël venait de sortir de prison quand il est arrivé à Genève. Il se lie d'amitié avec Maria, laquelle souffre de troubles nerveux, et c'est en lui rendant des visites à Bel Air qu'il fera la connaissance d'une autre femme, Dominique. Celle-ci l'accuse de l'avoir violée. Les deux femmes, diminuées physiquement et mentalement, affirment aussi avoir été victimes de coups violents. Des photos attestent de ces sévices. En 89, Maria dépose plainte et la police se souvient alors qu'une autre femme s'était plainte de sévices. Le nom de cette dernière sera d'ailleurs retrouvé sur une enveloppe en possession de l'inculpé. À l'époque, personne n'avait cru Dominique. Selon l'inspecteur, celle-ci fabulait beaucoup. Mais la victime est venue hier témoigner au procès et elle a confirmé l'agression dans un discours très très cohérent. Le jury pourtant a accusé Joël des chefs de viol et d'attentat à la pudeur. Les femmes du syndicat suisse des mass médias demandent la création immédiate de 3,5 postes de préposés aux questions féminines au sein de la SSR. Celles-ci devraient également avoir leur mot à dire lors des décisions concernant le personnel. Les femmes du syndicat ont informé mardi la presse sur la place des femmes au sein de la radio et de la télévision, ainsi que sur les changements demandés. Il est à craindre que les mesures d'économie draconienne annoncées par la SSR, en particulier la suppression de 270 postes, soient essentiellement subies par les femmes, ont expliqué les femmes du syndicat. Près de la moitié des femmes engagées par la SSR ont un contrat dit libre, renouvelable chaque année, mais sans garantie. À Zurich, la culture alternative et la culture des femmes risquent d'être mises à la porte du Kanzleitrum. En effet, le week-end dernier, les électeurs avaient refusé à une faible majorité un crédit de près d'un million de francs pour l'exploitation de ce haut lieu de la culture alternative. Profitant de ce vote, l'Union démocrate chrétienne de la ville de Zurich exige la fermeture du Kanzleitzentrum. Nous vous rappelons que beaucoup de spectacles de femmes se donnent au Kanzleitzentrum, qui est un espace ouvert et qui a beaucoup développé la culture des femmes. Manifestation devant l'UBS, aujourd'hui, mercredi, appelée par le syndicat du bois et du bâtiment, la FOBB. La FOBB a organisé cette manifestation afin de protester contre l'attitude de la banque UBS, banque accusée par les syndicats de confisquer les salaires des employés d'une entreprise en difficulté. Certains de ces employés n'ont plus été payés depuis 4 mois. Il s'agit de l'entreprise Orlandi, un des leaders romands du carrelage, dont la faillite paraît imminente. La fermeture de cette boîte touchera 85 travailleurs. Depuis quelques mois, l'UBS est accusée d'avoir encaissé les montants des factures destinées aux employés sans leur payer leur salaire. C'est contre ce scandale, contre la froideur glaciale de l'UBS et contre la loi qui permet de tels abus qu'a manifesté le syndicat. Un récent rapport de la Screen Actors Guild, la guide des acteurs de cinéma, a révélé qu'en 89, 71% de tous les rôles dans tous les films et 69% à la télévision ont été obtenus par des hommes. D'après ce journal, il n'y a aux États-Unis pratiquement plus de vedettes féminines de calibre suffisantes pour que des films soient montés sur leur seul nom, prétendent les producteurs. Notre page sportive, les Jeux olympiques asiatiques s'ouvrent sous le drapeau de l'austérité. Les responsables de la sécurité ont interdit la présence de fusils, d'épées, d'explosifs, de paniers repas et de sacs à main au stade des travailleurs de Pékin où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques lundi. Des affiches recommandent aux spectateurs de ne pas apporter de la poudre au canon, d'explosifs, des détonateurs, des substances radioactives, d'armes à feu, d'épées, de sacs à main, de boissons et de nourriture sous emballage rigide. Les autorités chinoises ont décrété des mesures de sécurité draconiennes autour des sites sportifs qui accueillent les Jeux, de crainte que les dissidents n'organisent des manifestations de protestation contre l'écrasement du printemps de Pékin en juin 89. Par ailleurs, la délégation de l'Iran a refusé d'être précédée d'une jeune chinoise en mini-jupe porteuse d'une pancarte qui annonçait le nom du pays, comme ça a été le cas pour toutes les autres délégations. La République islamique avait fait valoir que pour des raisons religieuses, elle ne pouvait accepter pareille promiscuité. Les organisateurs ont accepté que la jeune femme soit remplacée par un jeune homme. Par ailleurs, la délégation féminine iranienne des athlètes ont défilé couverte de tchador noir. Mais au fait, comment fait-on pour courir ou nager 100 mètres avec un tchador ? Et pour terminer, je vous en ai préparé deux cette semaine. Le premier, eh bien, c'est à l'écrivain soviétique résident en Suisse, Solzhenitsyn, que nous l'accordons. Solzhenitsyn vient d'écrire un livre qui s'appelle « Comment réaménager notre Russie » qui paraîtra aux éditions Fayard d'ici une quinzaine de jours. Et dans ses conseils pour une démocratie, l'écrivain cite la Suisse et loue le droit d'initiative et du plébiscite. Il fait aussi l'éloge de l'efficacité des assemblées du peuple. « J'ai eu la chance, dit-il, d'en observer un exemple en Suisse, dans le canton d'Appenzell. » Eh bien, le bonjour aux dames d'Appenzell qui ne peuvent toujours pas voter. Ce cochon m'a été inspiré par le furet de la Suisse de dimanche. Et un dernier cochon, celui-là, je n'ai pas pu m'en empêcher de le dire, malgré que le sujet soit fermé. Il s'agit bien sûr des votations pour sortir du nucléaire. Alors, il y avait un comité Genevois anti-pollution avec un responsable, M. Nusselet. Je pense que c'est un monsieur, malgré que... Il est son petit encart publicitaire parle au nom des femmes. Ça s'appelle que voilà ce qu'il dit. C'est toujours les hommes qui veulent régler les problèmes des femmes. Ah, ça c'est bien vrai, Monsieur Nusselet ou Madame Nusselet peut-être, qui sait. Cette fois, ils s'en prennent à notre confort ménager, donc les antinucléaires. Comme si pour eux la machine à laver n'était qu'un gadget, comme si le travail ménager n'a jamais fatigué personne. Ah oui. On nous dit supprimons le nucléaire. On peut très bien vivre avec 41% d'électricité au moins. Il n'y a qu'à forcer sur le pétrole. Nous, les femmes, nous ne sommes pas du tout acquises à l'idée du nucléaire, mais pas question de supprimer la notion du confort ménager. Mais on pourrait imaginer aussi que monsieur fasse de temps en temps la vaisselle. C'était les nouvelles sur 93.8 MHz, Radio Pleine Lune, Onde Femme, Radio Zone. Dans quelques instants, notre memento. Mais entre deux, on va écouter un peu de musique. Qu'est-ce qu'on va... Tu nous as préparé quelque chose?
Tout d'abord, on va écouter un peu de Laurie Anderson. Et après, je vous ferai écouter le nouveau album de Meredith Monk.
Bonjour. Viviane.
Salut.
Tu veux,
You can dance.
Alors voilà, c'est un mot que tu veux voir.
You can make me laugh. You got it, sweet. You know how to sing. You're an ugly guy with an ugly face.
and also in the human race. And even God got sad just looking at him. And at his funeral, all his friends stood around looking sad. But they were really thinking of all the ham and cheese sandwiches in the next room. And everybody used to hang around him, and I know why. They said, there before the grace of the angels, go on. Why this life?